La Lorraine vue du parc.
Biodiversité,
milieu naturel,
culture,
tourisme,
aménagement durable du territoire.
Une émission en partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine.
Une autre vie s'invente ici.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de La Lorraine vue du parc pour ce mois de mars, déjà le printemps ce mois-ci. J'espère que pour vous qu'il y aura beaucoup de soleil et un beau temps. Profitez enfin de ces rayons et de ne plus être les pieds dans la neige, même si la neige c'est toujours très sympa. Je suis aujourd'hui avec Jean-Marc Gollard, chargé de mission énergie au sein du parc. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est un petit peu dans l'air du temps. C'est le territoire à énergie positive. Comment c'est venu? Quelle est la démarche?
Déjà peut-être pour faire un point avec l'actualité, en ce moment on entend beaucoup parler dans les différents médias de la conférence qui aura lieu à Paris à la fin de l'année sur le climat. Et donc dans ce cadre-là aussi en France, il y a eu un appel à projet qui a été lancé au niveau national pour tous les territoires qui souhaitaient s'engager dans ce qu'on appelle un territoire à énergie positive.
Mais qu'est-ce que c'est que le territoire à énergie positive?
Alors la finalité d'un territoire à énergie positive, c'est on va dire à long terme de produire plus d'énergie que ce que l'on consomme.
D'accord, donc, ça existe déjà pour les maisons, je crois.
Ça existe déjà pour les maisons, même s'il y en a, il faut bien l'avouer, très très peu.
Parce que le principe, c'est que bon, on a une maison, la plupart des maisons, on consomme plus d'énergie, on n'en récupère pas. Il y a les maisons qui sont passives, où là c'est mieux, puisque on perd beaucoup moins d'énergie, et même si on n'en récupère pas. Et la maison positive, à énergie positive, c'est elle qui en récupère de l'énergie. C'est quoi? C'est par exemple une maison avec un panneau solaire?
Voilà, alors c'est exactement le même principe pour le territoire et pour la maison. Donc en fait, pour la maison, ça va être une maison dans laquelle on va produire plus d'énergie qu'on va en consommer. Alors c'est déjà une maison qui est super bien isolée et où on va pas consommer beaucoup d'énergie, où les calories du chauffage vont pas partir par les fenêtres. Et en plus, il y a des moyens de production d'énergie renouvelable qui vont permettre d'injecter par exemple de l'électricité dans le réseau. Et donc c'est une maison qui va produire plus d'énergie que ce qu'elle va consommer en fait.
Par rapport au territoire en lui-même, comment ça se traduit, ces appels à projets? C'était l'initiative de quel organisme?
L'appel à projet, c'est une initiative du ministère de l'Environnement qui a voulu savoir quel territoire en France voulait se positionner sur ce type d'action.
Alors déjà, territoire, c'est quoi? Ça peut être aussi des régions, ça peut être des départements, c'est pas que des parcs?
Alors non, alors ça peut être vraiment tout type d'organisme. Ça peut être une commune, une communauté de communes, une communauté urbaine, un département, une région, tous les échelons pouvaient postuler. Il y a eu quand même pas mal de territoires qui ont été retenus. Pour prendre l'exemple des parcs naturels régionaux, sur les 50 qu'il y a en France, il y en a 41 qui ont été retenus.
Oui, c'est une belle proportion.
On était très très nombreux à répondre. Apparemment, ça a eu beaucoup de succès.
Et c'est le ministère de l'Environnement qui a fait le choix, qui a étudié les dossiers?
Exactement, c'est eux qui ont fait un petit peu comme un jury quand on sélectionnait les candidats.
Par rapport au projet, justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que c'est? Quelle était la stratégie, par exemple, au Parc de Lorraine?
Ce qu'on veut faire dans le cadre du territoire à énergie positive, c'est vraiment mettre en place de façon plus concrète notre plan climat, en étant beaucoup plus sur les actions concrètes que vont porter nos partenaires. Que ce soit sur le développement des énergies renouvelables, par exemple les projets de méthanisation, en ce moment il y en a pas mal, qui permettent donc de produire un gaz avec des ressources locales, et non plus en faisant venir des ressources de l'autre bout de la planète. Donc c'est vraiment dans l'esprit du territoire énergie positive. Et puis d'autre part, pour reprendre aussi l'exemple de la maison, c'est consommer moins d'énergie. Donc pareil, on va essayer de monter un petit peu en puissance sur nos actions en termes d'éclairage public, aussi des actions sur les logements, donc il y a énormément à faire sur la question.
La sensibilisation des publics, j'imagine, aussi.
Voilà, ça c'est indispensable aussi de continuer à le volet sensibilisation, information de tous les publics.
C'est vraiment sur deux côtés de le territoire à énergie positive, c'est à la fois d'un côté sensibiliser, faire en sorte de consommer moins d'énergie, et d'autre part, exploiter les ressources naturelles ou les ressources locales.
Voilà, c'est bien ça. Donc là.
Mais dans le respect toujours de l'environnement.
Oui, bien sûr, dans le respect de l'environnement et aussi dans le respect du portefeuille, parce qu'on voit bien aussi que faire des économies d'énergie, il y a un impact financier derrière, donc ça peut être intéressant.
Oui, c'est bien beau. Il y a beaucoup de familles qui aimeraient bien faire des économies d'énergie, mais étant donné les travaux qu'il y a à mener, elles ne savent pas vraiment vers où, vers qui se tourner. Et puis, ça fait une dépense en plus, mine de rien, même si au final, on récupère des économies.
Non, mais c'est vrai que c'est une question très, très compliquée au final et qui demande pas mal de temps. Et c'est pour ça que c'est aussi une politique un peu de long terme. Et on sait que pour devenir un territoire énergie positive, ça va prendre certainement plusieurs décennies.
D'accord, c'est un projet donc qui est porté sur plusieurs années.
Ah oui, complètement, parce que actuellement en France, il n'y a aucun territoire qui peut dire qu'il a énergie positive et il faudra beaucoup de temps pour qu'il y en ait un, je pense.
Mais bon, on espère.
On espère, et que ce sera nous les premiers.
Le Parc de Lorraine, alors futur territoire à énergie positive, on y croit et on se mobilise pour ça. De toute façon, comme ça, vous aurez les infos sur la page du parc et sur le site internet si, dès qu'on aura des actions concrètes qui sont liées à ce projet-là. Merci beaucoup Jean-Marc.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Quand on associe chant d'oiseaux et batterie, on obtient Electroplume, un projet artistique unique en son genre que vous aviez peut-être eu l'occasion de découvrir l'année dernière à l'occasion des 40 ans du Parc naturel régional de Lorraine. C'était au lac de la Madine.
Et vous êtes toujours à l'émission de La Lorraine Vue du Parc, nos chers auditeurs de Fadjet. Tout à l'heure, nous étions avec Jean-Marc qui nous parlait du territoire à énergie positive. Maintenant, place à un autre sujet, un petit peu plus nature et pratico-pratique. Je suis avec Laurent Godet qui est chef de la mission Préservation et Valorisation des Espaces Naturels. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Donc Laurent, tu vas nous parler un petit peu de tout ce qui est le suivi et le chantier participatif. Donc c'est deux thèmes qui semblent très généraux comme ça. Mais en fait, on est vraiment dans l'action concrète pour le territoire, pour la nature. Donc ça peut intéresser nos auditeurs qui veulent agir davantage pour l'environnement.
Mmh, tout à fait. C'est vrai que c'est une nouvelle formule de participation de tout à chacun et de ne pas conserver l'information naturaliste et les inventaires au seul expert en la matière, mais bel et bien participer et faire participer l'ensemble des habitants des territoires. Pour petit 1, qu'ils connaissent, qu'ils s'approprient le patrimoine naturel, et petit 2, avoir aussi un retour qui est décuplé par rapport à ce que pourrait faire un seul naturaliste quand on a une centaine d'habitants sur un territoire qui s'approprie un sujet. Ah, c'est tout de suite des informations beaucoup plus intéressantes, y compris au niveau écologique.
Oui, donc c'est chacun qui fait un petit peu, et après ça fait une masse d'informations qui peut être plus facilement exploitée par les gens dont c'est le métier, hein, comme les naturalistes, qui ont du coup un petit peu plus d'informations par rapport à une espèce précise.
Voilà, c'est plus de matière à analyser, c'est une répartition territoriale différente, parce qu'un naturaliste, il n'a pas pour faire ce qu'il veut en un seul soir pour aller compter les grues, par exemple, qui reviennent le soir. C'est pas facile d'aller partout à travers la Lorraine. Quand on a 100 à travers toutes les communes concernées, c'est beaucoup plus facile d'avoir à un instant T une vraie information scientifiquement rigoureuse.
Et puis au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de doublon, c'est ça?
Et voilà, ensuite, on est sûr qu'il n'y a pas de doublon.
Le suivi participatif, c'est ça, c'est ce dont tu parles. Mmh. La différence entre observatoire et suivi participatif, comment ça se passe?
Alors souvent, en fait, le suivi participatif est le préalable à l'observatoire. C'est-à-dire que le suivi, comme son nom l'indique, il est bien une batterie de regards fixés sur un objet. Alors il y en a plein, à la chaîne nationale. On peut citer un des premiers, c'était l'Observatoire des papillons de jardin, lancé par le Muséum d'histoire naturelle et l'association Noé Conservation, qui permettait à tout un chacun, avec des fiches simples, de dire tiens, dans mon jardin, je me prends une heure et je regarde tous les papillons qui viennent butiner mes fleurs. Et on faisait l'observation, on faisait remonter l'information au musée, et tout ça a été analysé, ça a fait des milliers de données à travers la France. Donc des répartitions d'espèces très intéressantes à un instant T.
Et permettre permettre ensuite de faire une carte, j'imagine.
Exactement, une carte de répartition, les espèces les plus vues. Est-ce que c'était le citron, est-ce que c'était l'aurore, est-ce que c'était, voilà, c'était très intéressant, ne serait-ce que sur cette information-là, même si elle n'était pas exhaustive et rigoureuse scientifiquement. Ça a fait une première accroche qui a été poursuivie, par exemple, à cette échelle nationale avec un programme qui s'appelait Speeple. C'est pas un magazine, hein, c'est bel et bien...
Oui, c'est un nom qui sonne bien.
Ben oui, c'était fait pour, hein, ça fait, c'est aussi une accroche. En fait, c'était de la même manière, regarder ces fleurs pendant un quart d'heure et on prenait en photo tout ce qu'il y avait qui venait butiner sur ces fleurs. Et les photos étaient envoyées au muséum qui les analysait, qui renvoyait la détermination de l'espèce. Et comme ça, ça a fait un énorme catalogue de toutes les espèces qui allaient butiner les fleurs à travers la France.
Et on les connaît mieux, du coup.
Ben oui, du coup, on connaît mieux leur répartition, leur écologie, à quelle date elles arrivent, sur quel type de fleurs. Donc c'était vraiment très, très intéressant.
Et ça permet aussi, du coup, de repérer quelles sont les espèces qui sont en voie de disparition.
Tout à fait, de voir les régressions ou les augmentations, parce que malheureusement, il y a aussi des espèces invasives qui ont été notées lors de ces échantillonnages. Donc ça, c'est vraiment le caractère du suivi, c'est l'information que porte l'habitant et porte cette information au scientifique. Ensuite, le scientifique l'analyse et le met en œuvre au travers d'un observatoire. Parce que quand elle est transformée, cette information brute du suivi, elle devient un observatoire que l'on peut faire récurrent d'année en année et qui nous permettra d'avoir une information, effectivement, sur 10, 20 ans et peut-être un siècle, si encore, j'espère, des suivis participatifs, et si encore des naturalistes sur le territoire ou des espèces à voir, et on pourra comparer ce qui existait à l'époque.
Oui, un genre d'encyclopédie à l'instant T.
Tout à fait, voilà.
Justement, tu parlais du national, du régional. Qu'est-ce qui se passe en Lorraine sur le parc ?
Alors, sur le parc, donc on s'empare de ce sujet depuis, entre guillemets, peu de temps, sachant finalement un des premiers sujets que l'on avait traité de cette manière, c'était déjà l'Atlas communal. L'Atlas communal, ça a été une sorte d'observatoire du patrimoine que l'on a fait aussi avec des habitants des 93, où on demandait l'information nature des habitants. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là, il faut bien l'avouer. Donc on retransmettait cette information lors d'une restitution en commune. Ça, c'était notre premier, quelque part, suivi participatif en même temps qu'observatoire. Et puis ben là, depuis quelques années, on redécline, en particulier sur l'avifaune, donc tout ce qui est oiseaux, parce que c'est quand même quelque chose qui est très visible, qui est très vu, qui est très connu, qui est très sensible pour les habitants et tout un chacun, donc ça marche bien comme participation. Donc on a repris une enquête qui avait été menée par les parcs, mais qu'avec des scientifiques à l'époque, qui était un suivi de la chouette chevêche, qui est donc un petit rapace crépusculaire et nocturne en voie de disparition à travers la France, et depuis 20-30 ans, les parcs s'étaient associés pour mener en place un suivi des populations, en particulier de mâles chanteurs, de cette espèce.
Parce que cette espèce-là, elle est présente sur toute la France.
Elle est présente sur toute la France, mais dans des habitats très différents. Elle peut être dans des pierriers en Ardèche, dans des pommiers dans les Vosges du Nord, et chez nous, bah, dans des vieux bâtis de fermes, et dans le nord de la France, dans des grands saules troués. Donc voilà, on voulait en savoir plus, mais on s'est rendu compte qu'il y a des limites dans les expertises scientifiques, elle manque aussi de moyens, et que finalement, pour un peu mieux sensibiliser les gens, il existait une opération menée avec la Ligue de protection des oiseaux à l'échelle nationale depuis longtemps, qui s'appelle la Nuit de la Chouette, qui a lieu tous les deux ans, et qui sensibilise les gens à ces rapaces nocturnes, leur intérêt en termes d'écologie, même d'économie, en même temps leur raréfaction. Donc il y avait cette option pour sensibiliser. On la poursuit, puisque cette année, d'ailleurs, nous allons avoir au début avril, le 3 et 4 avril, deux manifestations à Marsal et à La Chaussée, le soir. L'une avec un spectacle à Marsal, sur le thème de la chouette chevêche.
Ça, c'est le samedi 4 avril.
Voilà, chouette Firmin. Voilà. Et puis le vendredi 3 avril à La Chaussée, là, une animation nocturne avec un preneur de son qui va nous faire écouter les différents rapaces nocturnes qui existent, et nous dire comment prendre le son et nous donner un peu quelques notions d'écologie.
Mais avant cela... Ça peut être intéressant, hein, pour nos auditeurs qui habitent Nancy, qui écoutent Fadjet. Vous n'êtes pas très loin de Marsal et de La Chaussée, puisque Nancy est vraiment pile au milieu. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, vous avez toutes les infos sur le site du parc pour vous inscrire à la Nuit de la Chouette.
Et lors de cette Nuit de la Chouette, d'ailleurs, en préalable, bah, nous allons faire acte et faire un résumé de deux années de suivi participatif avec des habitants, avec des bénévoles. L'an dernier, 130 bénévoles ont participé à ce suivi de la chouette chevêche sur tout le territoire du parc. Donc ça, les 180 communes ont été couvertes par des bénévoles au même instant T. Et ce qui nous a permis vraiment de dénombrer le nombre de couples de cette chouette. Donc il va y avoir restitution avant ces spectacles-là, de cette information-là.
Oui, voilà. C'est une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. Absolument. Et de voir que c'est pas parce qu'on est bénévole qu'après on n'a plus d'informations. C'est qu'on fait partie intégrante du suivi. Et une fois qu'on commence à s'impliquer un petit peu dans le parc, parc, si vous êtes bénévole et que vous avez envie de le devenir, sachez que c'est pas juste une soirée comme ça et puis après on vous donne plus de nouvelles, c'est que vous avez ensuite un retour sur tout ce qui a été trouvé et une façon de vous impliquer.
Tout à fait. Sachant qu'il y a en plus des formations préalables, de l'information et des formations préalables à ceux qui le souhaitent sur comment reconnaître, comment apprendre.
Il n'y a pas besoin d'être ornithologue.
Pas du tout, tout à chacun. Et donc c'est pour ça que cette année aussi, nous lançons dans la poursuite de ce programme une enquête qui avait été menée déjà par la LPO au niveau national et qui se poursuit localement, qui est l'enquête sur les hirondelles. Donc là, il y aura une première réunion avec tous nos partenaires qui vont s'impliquer pour nous donner des notions un peu de méthodologie scientifique, mais également d'analyse des résultats. Donc nous allons faire ça avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, à l'échelle régionale,
connu, ouais.
Qui est bien connue, avec le Centre ornithologique lorrain, avec le CPIE des côtes de Meuse, avec l'association IRUS, avec l'association des sonneurs de la côte à Pagny, sur Moselle, qui a déjà initié ce recensement de nids. Le but est effectivement de recenser, et puis l'association Loana aussi, le but est de recenser en fait les nids occupés par les hirondelles. Savoir, un, leur date d'arrivée, pour voir finalement dans le cadre d'un changement climatique ou pas, eh bien si les périodes d'arrivée et de départ se modifient au fil des ans, mais il faut bien le noter quelque part pour s'en assurer. Et puis s'assurer aussi de l'occupation des nids de ces hirondelles, puisque malgré tout, même si c'est un animal emblématique que tout le monde connaît, eh bien il s'avère qu'elles sont en raréfaction à l'échelle européenne, et on souhaiterait savoir pourquoi, quelle est la raison, est-ce que c'est l'habitat, est-ce que c'est le mode d'alimentation, voilà. Donc cette enquête permet d'une part, à la base d'une petite fiche que vous pouvez récupérer sur le site du parc ou demander au parc, eh bien, vous pouvez identifier les deux hirondelles, hein, l'hirondelle rustique
et l'hirondelle
de fenêtre. Il y a aussi le martinet, mais il fait moins l'objet d'une enquête parce que ces nids ne sont pas si évidents, ne sont pas accrochés de la même manière. Il est beaucoup plus facile de faire une enquête sur les nids d'hirondelles. Donc on part sur cette idée-là, de voir quels sont encore dans les villages du parc, les fenêtres qui sont occupées, les bâtiments qui sont occupés par ces deux espèces et quelle en est leur population. Premier démarrage cette année, on espère que ça suivra. Ça sera en fonction effectivement du nombre de bénévoles qui participeront, qu'on aura du retour d'information sur ce sujet.
Donc surtout, hein, n'hésitez pas si vous souhaitez devenir bénévole pour le parc et puis aider au suivi sur l'évolution des hirondelles. Surtout, vous pouvez contacter le parc, hein, www.pnr-lorraine.com. Il y aura la fiche à disposition pour pouvoir la remplir et savoir comment faire. Et puis, n'hésitez pas aussi à appeler à l'accueil du parc, hein, 03 83 81 67 67. On vous donnera toutes les informations. Donc ça, ce sont pour les hirondelles. Je ne savais pas effectivement qu'elles étaient en voie de disparition. On en parle peu quand même.
Oui, on en parle peu, mais c'est vrai que la plupart des oiseaux communs, alors là aussi on parle de suivi d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le suivi temporaire des oiseaux communs, le STOC, qui est fait là plutôt par vraiment les amateurs d'avifaune et les vrais ornithologues, mais qui permet de suivre chaque année les oiseaux, entre guillemets, communs, pour voir si justement ils sont aussi en voie de raréfaction. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que même le moineau friqué a tendance à régresser, que certaines populations que l'on voyait régulièrement, une belle grosse espèce, la pigrièche. Il y a plusieurs pigrièches à tête rousse, grise ou écorcheur, qui sont des gros oiseaux très colorés et qui sont en migration. Bien, il n'existe plus que la pigrièche écorcheur qui est encore relativement visible. Les deux autres ont quasiment disparu, alors qu'ils étaient très communs dans nos campagnes. Et d'ailleurs, il y a une enquête menée par le CPIE cette année sur la pigrièche écorcheur. Donc beaucoup d'oiseaux, sans doute dû à la régression de leur alimentation avant tout, et puis l'homogénéisation des paysages avec des manques de structures arborées.
Oui, c'est ça, c'est qu'avec énormément de champs, il y a moins d'espace.
Disparition de prairies, disparition d'éléments boisés, fait qu'il y a une banalisation, et donc on a plus des espèces dites ubiquistes, telles que les corbeaux, telles que maintenant des cygnes, etc., au détriment des espèces qui étaient communes, mais qui le sont moins.
D'accord. Alors ça, c'est concernant les oiseaux. On a beaucoup parlé d'eux, mais il y a aussi des choses qui sont faites envers les amphibiens, hein, ouais. De chantiers participatifs, parce que je sais que dans l'émission précédente où vous avez parlé du chantier de pose de filet pour les amphibiens, là, on est dans la même veine. Hein.
Voilà, tout à fait. Alors là, on avait fait, depuis 1995 d'ailleurs, nous avions fait des courriers aux communes du parc pour connaître, c'était une première enquête participative, les secteurs de migration d'amphibiens, c'est-à-dire où on voit surtout écraser, parce que c'est comme ça que malheureusement on identifie vite des migrations, crapauds et grenouilles. Et puis de cela, on avait commencé par faire des actions, et qu'on pérennise encore maintenant, qui sont des actions de protection de ces migrations printanières lorsque les amphibiens descendent de leur lieu d'hivernation, souvent un milieu forestier, pour aller dans leur milieu de reproduction, c'est-à-dire un étang ou une mare. Et malheureusement, étant donné qu'on a quand même beaucoup de ruptures de corridors écologiques, dont on parle beaucoup, tout ce qui est routes et autres, eh bien, sont des lieux où des populations peuvent disparaître en une soirée. Donc on a mis en place des protections, et puis depuis 3 ans, on le fait avec des bénévoles pour nous aider à récupérer ces bêtes après les chantiers. Les chantiers sont faits maintenant avec des lycées agricoles, le lycée agricole de Pixérécourt par exemple, ou la maison familiale et rurale de Danvillé. Et puis, avec des habitants également, les habitants des communes de Bouc, de Saint-Agnan, de Marbotte, d'Apremont.
Alors très concrètement, on pose des filets avec eux, avec les bénévoles, voilà, le long de la route, là où on sait que les crapauds, les grenouilles,
les tritons passent,
voilà, pour aller se reproduire. Et avant qu'ils soient arrêtés par la route, où ils vont risquer de se faire écraser, on pose des filets pour les retenir. Ils tombent dans des trous qui ont été creusés, voilà, pas très profonds, mais juste ce qu'il faut, voilà, pour les récupérer. Et après, on les fait traverser, on les récupère dans des seaux et on les fait traverser la route, voilà, pour les mettre dans l'endroit de reproduction sans problème et en toute sécurité.
Voilà. Et donc, on en profite pour les compter, pour les nommer, pour savoir quel est ce crapaud, quelle est cette grenouille, quel est ce triton. Donc là aussi, il y a des petites formations bénévoles pour reconnaître. Et puis tout ça est synthétisé pour faire cet observatoire de suivi des migrations d'amphibiens. Donc c'est fait avec une association et les habitants des communes d'Apremont, Saint-Agnan, Marbotte, et l'association Appel de l'Hérouville, qui nous aide à dénombrer ces bêtes et à les protéger. Et de cela, il y a aussi des enquêtes qui ont été réalisées, en particulier par les CPIE, qui mènent une enquête qui s'appelle « Un dragon dans mon jardin », puisqu'il y a un des grands tritons en raréfaction de Lorraine, qui s'appelle le triton crété, qui ressemble effectivement à un petit dragon aquatique. Et là, il y a une enquête qui est faite auprès de tous les habitants pour recenser les mares qui existent dans les jardins, puis voir s'il y a quelle espèce d'amphibien dedans.
Oui, il peut y avoir une mare comme ça qui a l'air de rien, qui est assez commune, et puis en fait, une biodiversité impressionnante à l'intérieur.
Absolument. Chaque mare creusée est hyper riche en biodiversité. C'est un milieu assez magique à voir au quotidien. Dès le mois de mars, ça grouille de vie jusqu'à la fin de la saison. Donc de cela, on en a aussi déduit des programmes, là, au-delà des suivis participatifs, de chantiers participatifs, puisque nous sommes en cours de création. Hier, il y avait création d'une mare au collège de Mousset, par exemple, en Moselle. Et maintenant, il va y avoir création de nouvelles mares du côté de Bonzé, Fresnes-en-Wavre, avec des habitants, des privés, pour faire ce qu'on appelle des connexions biologiques qui permettent aux espèces d'aller d'une mare à l'autre sans avoir à traverser tant de routes, sans avoir à faire 3 ou 4 kilomètres, mais d'avoir des étapes dans leur... Parce que vu leur proportion, ça fait quand même... très vite du chiffre, pour une toute petite bête de 5 cm, faire 1 km, c'est déjà pas mal.
Oui.
En une soirée, encore plus. Donc voilà, avoir des relais qui leur permettent de se réhydrater, de se nourrir et surtout de se reproduire. Donc là, on réalise pas mal et on va, j'espère, encore 3 fois plus réaliser de mares à travers le parc.
D'accord, très bien. Alors par rapport, je reviens aux oiseaux, au niveau des grues et des buteurs étoilés, il y a des choses qui sont faites, puisque
oui,
tout le monde connaît les grues, la plupart des gens connaissent les grues. Le buteur étoilé, c'est une espèce un petit peu moins connue, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors c'est une espèce vraiment très très rare, en raréfaction totale à l'échelle nationale d'ailleurs. C'est un héron, un petit héron, brun beige, avec des petites flamèches noirâtres, un petit peu étoilées, d'où son nom de buteur étoilé. Il est très discret, puisque quand il se cache dans les roseaux...
Il a un peu ventru, non ?
Il est très, très ramassé, avec un long cou qu'il étire à la verticale lorsqu'il se sent un petit peu effrayé. Et à la verticale, un truc un peu beige avec des taches brunes dans des roseaux secs, eh bien, on ne voit rien. Donc il est très, très mimétique dans son milieu. Donc on a beaucoup de mal à voir des adultes. Par contre, on peut entendre leur chant, très caractéristique. C'est une grosse corne de brume, là, qu'on entend bizarrement, ou alors un géant qui rote au loin, ça fait un peu ça. C'est pas très, très mélodieux, mais en tous les cas, on reconnaît. Et l'enregistrement de ces chants nous permet de connaître quel est l'individu qui a chanté. Parce que chacun a une vocalise différente. Donc c'est ce qu'on est en train d'analyser cette année. Et nous faisons des suivis, là, avec le conservateur des espaces naturels de Lorraine, avec la réserve naturelle régionale de la Chaussée, avec le CPIE, avec l'ONCFS aussi, qui nous permet d'avoir le recensement des populations de buteurs étoilés, cette espèce donc très très rare et nicheuse que sur les grands étangs pourvus de grandes roselières de Lorraine.
Donc c'est quoi ? C'est l'étang de la Chaussée ?
C'est l'étang de la Chaussée, c'est le lac de Madine, c'est l'étang d'Amel un peu plus au nord, c'est les étangs de la forêt de la Reine. Voilà les secteurs où maintenant cette espèce est concentrée, où là les seules populations de Lorraine quasiment... en tous les cas, de manière plus permanente.
Donc,
l'évolution.
Vous arrivez vraiment à reconnaître la voix, à savoir quel individu est
alors,
là.
Alors déjà, il faut être plusieurs, il faut être trois pour faire ce qu'on appelle une triangulation, c'est-à-dire permettre à trois naturalistes dans un secteur d'une roselière de repérer à peu près où est le mâle chanteur, s'il n'y a que le mâle qui chante à cette époque de l'année, et qui permet de savoir, bah, il est là. Voilà. Ensuite, un autre groupe de trois personnes va être ailleurs pour repérer s'il y a un autre individu ailleurs, que ce n'est pas le même qui migre d'un point à l'autre dans la même soirée. Et puis, bah, là, on enregistre depuis 3 ans les chants de ces bêtes-là, et cette année, nous allons analyser leurs chants, parce qu'effectivement, on pourra identifier quel est le réel nombre d'individus, et si l'individu qu'on va appeler Gérard, par exemple, Gérard le Butor, il était en forêt de la Reine au début mars, et puis il se retrouve à la chaussée mi-avril. Voilà, on n'en sait rien pour l'instant, on entend des chants. Avec des bénévoles, on sait où ils sont, à peu près combien ils sont d'une soirée, mais est-ce que seul même qui rechante le lendemain ou autre, on ne sait pas. Donc ça, on va le savoir en cours d'année.
Et ça, c'est une opération qui est aussi déclinée, la triangulation, pour le comptage du râle déjeuner, c'est ça?
Exactement, là aussi.
Ça, c'est au mois de juin. Hein.
Là, c'est plus tardif, effectivement. C'est une petite espèce de prairie, celle-ci de prairie de fauche tardive, très humide. Il est encore bien présent dans la vallée de la Meuse, donc un site suivi par le CPIE, et puis il est ponctuellement présent dans la vallée de la Seille. Il avait disparu depuis 10 ans, puis il est revenu toujours au même endroit. Donc chaque année, on espère le retrouver. Et pour cela, on fait aussi appel à du bénévolat, du suivi participatif en soirée pour l'écouter chanter et repérer s'il y a un mâle, plusieurs mâles ou pas du tout. Donc là, ça dépend des années.
Donc si nos auditeurs veulent devenir bénévoles pour le parc, hein, c'est pas parce que vous n'habitez pas sur le territoire du parc que vous ne pouvez pas participer. Hein. Vous pouvez venir de Nancy pour venir aux soirées de comptage des espèces, hein, il n'y a aucun problème. Quelle adresse leur donner? L'adresse du parc? Est-ce qu'il y a d'autres adresses à connaître?
L'adresse du parc, puisqu'après c'est vrai que par conventionnement, nous on collabore avec toutes les structures que j'ai déjà citées.
Donc ça peut être une bonne façon de se tenir au courant de tout ce qui se passe justement en termes d'action de bénévolat.
Voilà.
On contacte le parc et après
on
est mis au courant.
On peut reporter sur les enquêtes des CPIE, de la LPO, du Centre ornithologique Lorrain, de l'OANA, etc. Ça permet d'avoir une centralisation et de pouvoir à peu près voir tout ce qui existe en suivi participatif en fonction de ses envies, de ses volontés, de ses besoins qui peuvent aussi changer d'une année sur l'autre. Une année on veut faire de l'oiseau, une autre année de l'amphibien. Voilà, on centralise tout, puis ensuite on reporte. Par contre, toute l'information, nous, est enregistrée dans l'outil qui est Bombina, qui est la base de données naturaliste du parc, et échangée avec tous ses partenaires pour que l'info bénéficie à tous.
Très bien, merci beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas, www.pnr-lorraine.com. Vous avez aussi les informations qui seront sur la page Facebook du parc. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de la Lorraine Vue du Parc.
Ciao.
C'était la Lorraine Vue du Parc avec le Parc Naturel Régional de Lorraine.
Pour plus d'informations, www.pnr-lorraine.com.